remercie à Christian Jacquelin de nous inviter à nouveau au Bistrot des Ethnologues. Le Bistrot des Ethnologues est une institution si sympathique qu'on y viendrait même s'il pleut. Revoir Kaboul, au fond, notre dernier livre écrit à quatre mains, mais il est difficile de savoir qui a écrit quoi, même si Christian Jacquelin nous a dit ce matin qu'il pouvait deviner qui avait écrit quoi. Je crois que c'est assez en vain que l'on peut chercher de repérer qui a écrit quoi. Toujours est-il que c'est au fond 40 ans de connivence avec l'Afghanistan. C'est 40 ans de recherche en commun, puisqu'à partir de 1968, aussi 40 ans de mariage avec Pierre, que nous travaillons ensemble, pas seulement sur l'Afghanistan, mais d'autres, nous avons aussi d'autres terrains. Mais l'Afghanistan est notre terrain principal, notre terrain privilégié. Ces 40 ans aussi de contacts et de rencontres avec des Afghans, certains dont nous ne connaissons plus que les enfants, voire les petits-enfants, c'est aussi 40 ans de travail ensemble, en commun, pour la plupart de nos travaux, mais c'est aussi à travers ces 30 ou 40 ans de travail en Afghanistan, la transformation d'un pays au travers d'une dramatique mutation que nous aurons l'occasion de vous retracer en partie. Alors au fond, comment écrit-on et à partir de quoi écrit-on un livre après tant d'années de travail ? Tout d'abord, il y a une série de matériaux divers que nous avons voulu et que nous avons pu retravailler. Tout d'abord, sur le terrain, il y a les carnets. Des interviews, des observations que l'on fait au jour le jour, la prise de notes. Et puis le soir, on écrit chacun son journal. Ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, avec des observations ou des remarques beaucoup plus subjectives. Et puis ce journal, on se le relit l'un à l'autre. Et on se rend compte que même en ayant passé parfois toute une journée ensemble, on n'a pas vu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes réactions. Donc c'est déjà une première écriture, c'est une première analyse de ce que l'on a vécu pendant la journée. Mais quand on se met à écrire un livre sur 30 ans, à partir de ces matériaux de base, il y a encore tout d'autres éléments qui viennent. Il y a les souvenirs. Il y a la comparaison avec d'autres terrains qu'on a peut-être fait. Il y a une réécriture qui fait appel donc à ces souvenirs parfois embellis, mais aussi aux photographies et aux documents que l'on a pu accumuler. Et puis il y a, lorsque l'on a écrit « Revoir Kaboul » à quatre mains, il y a la complémentarité homme-femme, parce que nous n'avons pas sur des éléments et sur des événements exactement le même point de vue. Pierre et moi. Donc, c'est également en vain, comme je le disais tout à l'heure, que l'on chercherait à savoir quelles sont les lignes ou quelles sont les pages qui ont été écrites par l'un ou par l'autre.
Oui, c'est vrai. Il s'agit d'un livre écrit à quatre mains, comme l'a dit Micheline, à la suite de longs séjours. Nous avons éprouvé, au moment d'écrire notre ouvrage, le besoin de faire le point. Le besoin aussi de dire quelque chose sur l'équipe de recherche que nous faisions, de dire quelque chose aussi sur notre relation de longue durée avec l'Afghanistan et sur notre progressif apprentissage avec un pays, l'Afghanistan, qui nous est devenu peu à peu familier. Les lecteurs du livre peuvent opérer trois lectures de notre ouvrage. Ils peuvent le lire comme une histoire récente de l'Afghanistan. Nous avons vécu, comme l'a rappelé Micheline, effectivement, une période d'une trentaine d'années qui couvre un peu tous les régimes qu'a connu l'Afghanistan, de la monarchie à l'après-Taliban. On peut le lire aussi comme l'exposé de nos hypothèses de travail en Afghanistan. On peut enfin y voir l'évolution, le récit, la narration de nos relations avec les Afghans eux-mêmes. Cet ouvrage est divisé en cinq parties. La première partie s'appelle « Chemin d'été, chemin d'hiver ». Nous avons voulu donner une idée à nos lecteurs de la beauté de l'Afghanistan dans toutes les saisons. Nous avons beaucoup aimé travailler l'hiver. L'hiver d'abord parce que il y a évidemment beaucoup moins de touristes. Ensuite, parce que les Afghans eux-mêmes sont moins occupés du travail des champs. Et ils ont le temps de parler avec nous, de sacrifier à la commensalité, au plaisir de la conversation et d'être ensemble. Et les paysages, à toute saison, sont admirables. Donc la beauté des saisons, c'est un élément tout à fait important pour nous, enfin, qui marque les relations affectives qu'on a avec ce pays. Et notre première recherche, ou plutôt la première recherche dont il est fait état dans ce livre, c'est une recherche sur les groupes ethniques en Afghanistan. Alors, le problème des ethnies, la cartographie des ethnies, c'est un problème que connaissent bien les ethnologues. La cartographie ethnique est suspecte aux ethnologues. Les ethnologues savent bien que les administrations coloniales ont eu tendance à cartographier et à figer des entités humaines qui n'étaient pas aussi distinctes et différenciées dans la réalité. Et puis, les Afghans eux-mêmes, du moins les Afghans de l'élite et le gouvernement, n'étaient pas du tout ravis que l'on s'intéresse aux groupes ethniques. En Afghanistan, disait-il, il n'y a que des Afghans. Pourquoi faire des divisions? Pourquoi vouloir absolument insister sur les Ouzbeks, les Tadjiks ou les 75 groupes ethniques qui peuvent exister en Afghanistan? Mais, et puis à l'époque, disons, les écoles anthropologiques, sociologiques, insistaient plutôt sur les problèmes agraires, sur les rapports centre-périphérie, sur les rapports de classe. Et nous voyons bien que les groupes ethniques d'Afghanistan, qui étaient pour la plupart réprimés, ou du moins occultés, avaient une existence réelle. Donc ça a été notre première recherche. Les groupes ethniques existent-ils ? Qu'est-ce que le membre d'un groupe ou d'une vallée ou d'une tribu afghane, quel est son sentiment d'appartenance, en quoi se manifeste son identité? Et voilà en somme ce qui nous intéressait au premier abord. Il y avait au fond en Afghanistan, nous l'avons compris assez vite, trois niveaux d'appartenance. Le premier niveau, et peut-être le plus vif, le plus fortement ressenti, c'était l'appartenance régionale ou l'appartenance ethnique immédiate. On appartenait à telle ethnie ou à telle tribu ou à telle vallée, la vallée du Panjshir, bien sûr, pour prendre un exemple bien connu. Et puis, un autre niveau très important, c'était l'appartenance à l'Oumma, c'est-à-dire à l'ensemble des musulmans. L'appartenance nationale, bon, elle n'est pas inconnue. Les passeports portaient, pour les rares personnages qui possédaient un passeport, citoyenneté afghane. Mais en fait, l'Afghanistan, en tant que domaine d'appartenance, avait une réalité assez, avait une saillance assez faible. Quand les gens de Tashkurgan dans le nord, c'est la petite ville dont on avait étudié le bazar, parlaient du roi d'Afghanistan, ils parlaient de l'émir de Kaboul. Donc c'était des gens là-bas à Kaboul qui étaient représentants du gouvernement, mais qui étaient assez lointains. Les choses ont changé depuis. Donc en somme, ça a été notre premier thème de recherche. Quels sont les niveaux d'appartenance les plus saillants, quelle est l'importance respective de ces différents niveaux et comment les différents groupes ethniques voisinent-ils ensemble?
Alors, on peut se demander, dans une société où il y a une forte séparation entre hommes et femmes, où on peut même presque parler d'un apartheid, comment ma présence pouvait être ressentie? Alors, il y a au fond deux espaces. Il y a l'espace public qui était ouvert pour Pierre, mais l'espace privé lui était fermé. En revanche, moi, je pouvais aller dans les deux espaces. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait bien, les femmes, les Afghanes, elles ne sortent guère de l'espace domestique, ou quand elles en sortent sous le tchador, sous le tchadri, sous le voile bien connu, ou en tout cas, disons, il y a des espaces comme le bazar ou des lieux publics où elles ne vont pas. Alors, quelle était ma place? Alors, bon, je suis femme, bien entendu, mais je suis surtout une étrangère. Je suis une étrangère et en étant une étrangère, je suis un hôte. Et en tant que hôte, je suis neutre. Et ma situation, qui peut paraître ambiguë était une situation qui a été très très bien ressentie et qui n'a vraiment posé aucun problème. Comme femme, j'avais accès à l'espace féminin, après parfois un certain contrôle de ma nature pour bien s'assurer que j'étais une femme, mais comme étrangère, j'avais également, à part une ou deux exceptions comme les bains publics, j'avais accès à l'espace masculin. Par ailleurs, connaissant les usages et les comportements adéquats, parlant le persan, un persan que j'avais appris à Téhéran quelques années auparavant. Donc, j'étais libre, beaucoup plus libre que ne l'était Pierre, d'aller et venir dans les espaces publics et privés. Mais je n'en restais pas moins à un sujet d'étonnement. Et surtout, ce qui frappait mes hôtes, masculins et féminins, c'était de voir devant leurs yeux, au fond, un couple. Comment un couple occidental se comporte. Quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre un homme et une femme? Et je dis ça surtout quand il s'agissait des années 70, parce qu'après, avec l'exil, lorsque beaucoup, beaucoup d'Afghans, un tiers, on en parlera tout à l'heure, de la population afghane a dû se réfugier au Pakistan, où ils ont eu affaire à ce moment-là à des Occidentaux, médecins, experts, journalistes, etc., etc., bon, ils ont eu davantage de contacts. Ils ont eu à ce moment-là, en tout cas pour les femmes, contact avec cette vie menée par les femmes et les hommes d'Occident. Mais moi-même, j'ai pu, dans les années 70, où il y avait extrêmement, à part quelques touristes, mais qui n'entraient pas dans le cadre domestique, j'ai eu affaire avec l'intérieur des maisons, l'intérieur des familles. Alors, nous étions, Pierre et moi, une forme, soulevions une forme d'étonnement, mais en même temps, je pouvais, moi, voir ce qui se passait, quelles étaient les questions que les femmes me posaient. Elles nous en posaient beaucoup, nous n'avions pas d'enfants, et au fond, comment est-ce que ça se fait, alors qu'elles en avaient beaucoup, que les Occidentaux pouvaient régler ce problème? Ça, c'était quelque chose qui était c'était une question qui était très souvent posée. Ils ont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pu nous voir comment on vivait en couple. Et ma position n'a au fond jamais été remise en question. Pourquoi ? Pas seulement parce que j'étais une femme, mais j'étais une femme sous la responsabilité de mon mari. Je pense que si j'avais été une femme seule, la situation aurait été beaucoup plus difficile. Mais là, elle était claire. J'étais sous la responsabilité de mon mari. Je mangeais et je dormais. La plupart du temps, dans la pièce où il y avait les autres hommes, dormaient. Donc, ça ne posait pas de problème. Une autre chose que nous avons faite dans les années 72-74, c'est que nous travaillions à ce moment-là dans un musée en Suisse. Et nous avons fait une collection d'objets courants pour ce musée à Berne. Mais nous avons acheté ce qui était encore peu connu à l'époque, qui n'était pas fréquent, c'était une yourte. Alors une yourte, vous savez ce que c'est? C'est une habitation, c'est une hutte au couvert de feutre, utilisée par les Ouzbeks, par les Turkmènes, par les Mongols beaucoup plus à l'est. Mais enfin, c'est une habitation saisonnière de groupes d'éleveurs, puisqu'il faut à peu près 150 kilos de laine pour le couvert de laine, le feutre. Et alors, c'est un objet, au fond, qui est un objet total, parce qu'il représente d'abord quelque chose que l'on construit, que l'on fait construire, parce que c'est très long, il faut faire le support, le cadre de la... Je dirais pas le cadre, le... L'armature par un charpentier. Il faut ensuite faire le feutre, il faut avoir assez de laine pour faire le feutre, il faut ensuite tisser toutes les bandes de laine et autres pour maintenir le couvert de feutre. Et c'est un objet qui est fabriqué pour un mariage et qui vient, bien entendu, ne peut être fait que dans des familles qui ont suffisamment de moutons pour obtenir assez de laine. Et si c'est un objet qui est une fierté pour les hommes, parce que avoir une yourte, c'est montrer qu'on a de l'argent, qu'on a des troupeaux. C'est aussi une spécificité des femmes, parce que c'est les femmes qui fabriquent et le feutre et toutes les bandes pour maintenir la yourte. Donc ça a mis en scène, d'une part, la division du travail, les relations hommes-femmes et Un autre problème qui s'est posé, c'est qu'au fond, une yourte, on ne l'achète pas. On l'a fait faire pour un mariage. Mais nous l'achetions. Donc, au fond, elle n'a pas de prix. Donc, il y a eu des discussions que l'on décrit dans le livre, qui étaient évidemment très difficiles et ardues, puisque ça n'a pas de prix, donc ça peut avoir un prix énorme. Mais enfin, on a réussi pour finir à l'acquérir et à la faire venir en Suisse, où elle a même été exposée à Paris, au Centre Pompidou.
La seconde partie de notre ouvrage s'appelle « Le bon usage ». Nous avons eu l'idée, Micheline et moi, à la suite de nos expériences, parfois comiques, parfois difficiles, mais que les Afghans ont toujours rendu, pour finir, sympathiques, écrire une partie appelée « Le bon usage ». Le bon usage, c'est un petit peu un manuel de savoir-vivre inexistant, bien sûr. Comment se comporter en Afghanistan quand on est des ethnologues. Alors en fait, on fantasme beaucoup sur la participation, l'observation participante des ethnologues avec leur terrain. En fait, nous sommes aperçus que cette participation avait bien sûr des limites, qu'elle était en partie imaginaire. Mais en fait, nous avons eu avec Micheline de longues cohabitations avec les Afghans, une certaine familiarisation avec plusieurs communautés afghanes. Et au fond, ce manuel de savoir-vivre imaginaire consiste à se demander comment être considéré par les Afghans comme les étrangers convenables. Il est illusoire de croire qu'on est devenu un des leurs, comme disent parfois les journalistes naïfs, mais il est possible, nous parlions la langue, nous parlions le persan afghan, Micheline et moi, il est quand même possible d'approcher un peu les Afghans un peu plus près et de comprendre les normes, les raisons qui poussent les Afghans à se comporter de telle ou telle façon. Ce qui nous a importé de dire également dans ce bon usage, c'est ce qu'on entendait par informateur ou interlocuteur. Le terme informateur, largement utilisé dans le domaine des sondages, en sciences politiques, en sociologie, en ethnologie, nous plaît pas tellement. Il a un petit air policier. Nous préférons utiliser le mot interlocuteur. Or, à notre grande surprise, alors que nous étions, au début de notre étude, un petit peu angoissés par l'idée de savoir est-ce que les Afghans vont répondre à nos questions, on s'est aperçu que notre premier problème, c'était nous. Nous avions à répondre à leurs questions. Nous étions des sujets de curiosité. Nous étions des personnages qui effectuent une intrusion forte dans leur vie, dans la vie des Afghans du nord-est de l'Afghanistan, mais qui représentaient aussi des spécimens dignes de curiosité de la vie des Occidentaux. Donc en fait, grâce à nos longs séjours, nous pouvions être soumis à leurs questions à eux. Et nous avons été les premiers questionnés et pas les premiers questionneurs. Donc le fait d'être questionné en premier, d'être objet de curiosité, d'être objet de questions multiples, combien tu as payé ta femme, est-ce qu'il y a aussi des vaches chez vous qui donnent combien de litres de lait, et toutes sortes de questions extrêmement importantes, est-ce que vous êtes chrétien ou est-ce que vous êtes comme les Russes, est-ce que vous mangez vos morts comme les Russes, etc. etc. Tout cela leur apparaissait comme des questions importantes. Et c'était des questions importantes. Donc, le fait que nous avons été, nous, disons, les premiers informateurs de nos informateurs, a eu, je pense, une importance assez grande, parce que ça nous a d'abord permis quel était le domaine qui semblait important à nos interlocuteurs. En effet, le problème du mariage, le problème des religions, le problème de l'économie domestique, leur semblait pour eux central, et on n'était pas toujours à même de leur répondre. Lorsque des moulins lettrés nous disaient « Oui, mais enfin, nous, on a un Coran », le Coran, c'est le livre qui a été révélé au prophète Mahomet. Vous avez quatre évangiles. Comment est-ce que vous pouvez concilier quatre avec un, etc. Et alors, n'étant pas théologien, on était parfois un petit peu embarrassé. De même, dans le domaine de l'économie agricole helvétique, qui faisait l'objet de leurs questions, on n'était pas toujours très habile dans nos réponses. Bref, ce qui était au centre, au fond de notre enquête, c'est non pas un interrogatoire ou une interrogation unilatérale, mais cet échange d'informations qui pour nous était primordial. On peut bien le dire. Bien sûr, dans cette partie consacrée au bon usage, nous parlons de nos voyages innombrables avec les moyens du bord, dans les autobus bondés afghans, parfois des voyages à cheval, parfois à dos d'âne. En général, quand on empruntait, on louait des montures. Les gens avaient plus naturellement tendance à me louer un cheval à moi et un âne à Micheline, ce qui crée des petits problèmes, bien entendu. On traite aussi le problème du déguisement, puisque beaucoup des voyageurs espions britanniques du siècle précédent, et pas seulement du siècle précédent, usaient de déguisements pour cacher leur nature d'occidental. Donc nous traitons plusieurs problèmes de contact et de dialogue selon les leçons que notre séjour de terrain nous ont apprises.
Alors ensuite, nous avons dû quitter l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70, après un premier coup d'État déjà en 73 où la monarchie a été renversée, et en 78 où la République de Daoud a aussi été renversée, mais cette fois par un coup d'État sanglant. Et ensuite, en 79, l'intervention soviétique, nous ne sommes plus retournés en Afghanistan. Et nous avons, au fond, dans ces années 80, on peut dire suivi, et nous sommes allés au Pakistan pour suivre et retrouver les Afghans, dont à peu près un tiers de la population avait quitté l'Afghanistan. On peut dire que dans les années 80, sur 15 ou 16 millions d'Afghans, il y en avait 5 à 6 millions qui avaient pris refuge au Pakistan et en partie en Iran. Donc, et nous ne reviendrons en Afghanistan qu'après le départ des Soviétiques en 90. Donc, dans les années 80, nous faisons nos recherches au Pakistan ou en Iran parmi les réfugiés afghans. Et c'était des séjours assez longs que nous avons fait là-bas, du nord au sud et de l'est à l'ouest du Pakistan, où les Afghans avaient été rassemblés qu'elle avait été mise à disposition, façon de parler, 230 ou 250 villages de réfugiés, enfin, disons, et emplacements où ils ont pu construire, après avoir eu disposé de tentes du HCR, ils ont pu construire des villages dont certains n'étaient même plus des villages, étaient des véritables villes de près de 150 000 habitants. Donc c'était dans les années 86-87, 88, 90 et 11, 93, 96 et 98 que nous sommes retournés au Pakistan, même si entre-temps, à partir de 90, nous sommes à plusieurs reprises retournés en Afghanistan.
Oui, effectivement, cette troisième partie, nous l'avons appelée une nation en exil, et concerne nos recherches au Pakistan, surtout en Iran, un peu. Alors, voilà 3, 4, jusqu'à 5 millions d'Afghans réfugiés au Pakistan, et un nombre presque aussi important en Iran. La littérature sur les réfugiés, la littérature du Haut Commissariat aux réfugiés, nous décrivait ces réfugiés et leur situation absolument déplorable, lamentable, ce qui était vrai. La situation des Afghans était très très difficile. Nous expliquait quel était leur déracinement, leur déstructuration, la dépendance où ils se trouvaient d'organisation d'aide. Et notre hypothèse, notre question, c'était en quoi les Afghans peuvent-ils reconstituer une société en exil? Il y a 3, 4, 5 millions de réfugiés au Pakistan. Comment vivent-ils? De quoi vivent-ils? Comment se voient-ils eux-mêmes? Quelle conscience ont-ils de leur situation? Alors, nous avons travaillé à plusieurs reprises en 86, 88, 90, 93, etc., au Pakistan et en Iran. Et bien vite, on s'est aperçu qu'il n'était pas possible de travailler, de faire des recherches de terrain de la même façon en Afghanistan dans les années 70 et au Pakistan dans les camps de réfugiés. On ne devient pas un des leurs, évidemment, dans les camps de réfugiés. On n'enquête pas de la même façon. Les Afghans qui étaient curieux de nous et qui étaient soucieux d'échanges d'informations, dans les camps de réfugiés, il y avait autre chose à faire. Et il y avait de l'urgence. Il fallait qu'ils soient nourris, il fallait qu'ils puissent soigner leurs enfants. Ils dépendaient de l'administration compliquée, soit du gouvernement du Pakistan, soit des organisations internationales. Et ils nous considéraient plus ou moins comme des agents des organisations internationales. Donc ce qu'ils voulaient de nous, c'est pas le prix des vaches en Suisse ou combien on avait payé, combien j'avais payé ma fiancée ou je ne sais quoi. Ils voulaient des machines à coudre, ils voulaient des sacs de blé, ils voulaient des secours. Donc les conditions de la recherche étaient tout à fait différentes. Nous nous intéressions de savoir en quoi les Afghans avaient été capables, étaient à même de reconstituer une société en exil. Certes, ils n'étaient pas très très loin de chez eux, puisqu'ils étaient de l'autre côté de la frontière, pour la plupart dans la province du nord-ouest du Pakistan. Et nous nous sommes aperçus très vite que, un peu à la différence de ce que disaient les articles lamentables ou les prospectus lamentables du Haut Commissariat aux réfugiés, les Afghans avaient réussi à, en quelque sorte, se refaire... reconstituer une société, se reconstituer une existence. Les Afghans avaient pris le dessus, en un sens, tout en vivant dans des conditions souvent très très difficiles, avec une forte mortalité infantile, avec une coupure avec leur pays. Ils avaient réussi, d'une part, à récupérer certains aspects de l'économie. C'est eux qui avaient monopolisé les transports dans la province du Nord-Ouest. C'est eux qui avaient, au Pakistan, totalement monopolisé tout le trafic de récupération. Ils avaient également réussi à dominer d'autres secteurs. Au point de vue social, loin d'être des espèces de clients de Chile, de l'administration pakistanaise ou des experts du Haut-Commissaire aux réfugiés, par le jeu des partis, de leurs représentants, ils avaient réussi à quadriller les camps et à gérer leurs propres affaires et à gérer aussi leur retour temporaire dans leur pays. Et au point de vue, disons, de l'identité et des représentations idéologiques, les Afghans avaient réussi, sur toute force majeure, d'élever la condition de réfugié à une condition presque, si ce n'est enviable, du moins magnifiée. Il y avait trois aspects de l'identité de réfugiés selon les Afghans. Un des aspects le plus attendu par nous autres, c'est le fait qu'ils étaient réfugiés au sens des conventions de 1961, des organisations internationales, etc. Et ils jouaient magnifiquement de cette identité réfugiée lorsqu'il s'agissait de recevoir des visiteurs occidentaux, lorsqu'un ministre hollandais, un conseiller fédéral helvétique, un ministre français visitaient les camps, ils étaient des réfugiés reconnaissants. Lorsque, en revanche, ils étaient vis-à-vis de leurs voisins pakistanais, qui étaient des membres des mêmes tribus dans la province du Nord-Ouest, ils étaient en fait des voisins qui avaient un passage à vide un petit peu difficile, mais qui vivaient selon le code de l'hospitalité, qu'ils acceptaient volontiers l'hospitalité tribale pakistanaise, mais qu'ils étaient prêts à leur rendre l'appareil au cas où les Pakistanais auraient à leur tour des difficultés. Et puis, troisième pôle d'identité des réfugiés afghans, c'est une identité à valeur religieuse. Nous avons, disait-il, nous avons quitté l'Afghanistan pour garder le Coran. Nous avons quitté l'Afghanistan par refus de vivre sous un régime communiste. Nous avons quitté l'Afghanistan comme le prophète, lui, avait quitté la Mecque pour Médine en 622, l'année de l'Hégire, pour garder nos préceptes et notre religion. Donc le fait d'être mohajer, c'est la même racine que hijr, hijra, est extrêmement valorisant. Ça veut dire qu'on est à un très haut degré de bons musulmans. Donc loin d'avoir cette identité souffreteuse du réfugié qu'on pourrait imaginer, cette identité réfugiée était absolument magnifiée. De même, la relation de dépendance des organisations d'aide était inversée. Quand un visiteur étranger visitait un camp de réfugiés, On a été témoin de certaines de ses visites. Dans un premier temps, un Afghan d'un certain âge, représentant des réfugiés, présentait un agneau aux visiteurs de marque et leur disait « On est reconnaissant de toute l'aide que vous nous apportez ». Mais dans un second temps, il disait « Vous nous apportez de l'aide, ça serait bien, mais nous sommes au front. Nous, nous souffrons des soviétiques. Nos frères, nos cousins, nos fils sont les Djamas, sont sur les fronts afghans et luttent contre le régime communiste de Kaboul. Donc nous, on donne notre sang. Vous, il est normal que vous donniez votre aide aux réfugiés afghans. Donc en fait, dans cet échange, apparemment c'est vous qui nous aidez. En fait, c'est nous qui nous apportons l'aide principale dans la lutte commune contre l'Union soviétique et contre les communistes. Donc au fond, toute la condition des réfugiés afghans vue par eux-mêmes était pour finir assez valorisante.
Alors, les Afghans, non seulement ils tenaient à garder leur structure, à garder leur société, à garder leurs principes, leurs traditions, même si on n'aime peut-être pas le mot, eh bien, ils cherchaient également, pendant la guerre, vu qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui avaient quitté l'Afghanistan pour ne pas devenir des soldats de l'armée au service de l'armée soviétique. Et donc, il fallait pour ces jeunes gens leur trouver des épouses. Donc, les familles qui étaient restées en Afghanistan faisaient également venir leurs filles, les cousines qu'il fallait marier aux cousins qui étaient soit au Pakistan, voire en Iran. Et j'en viens à cette histoire, c'est que nous sommes en 1990... Nous avons pris depuis Quetta, qui est au Baloutchistan, nous avons pris le train, un train qui avait été construit par les Britanniques à la fin du 19e siècle pour surveiller un peu toute cette partie de l'Empire britannique, une ligne de chemin de fer qui allait de Quetta jusqu'à la frontière iranienne. C'est une ligne qui doit faire à peu près 500 km, mais on met 24 heures pour traverser le désert et d'arriver à Zahedan en Iran. Alors à Zahedan, nous allions voir les réfugiés afghans, parce qu'il y en avait beaucoup, qui étaient non pas dans des camps, parce qu'il n'y a jamais eu de camp ou de village de réfugiés en Iran. C'était des Afghans qui travaillaient, qui étaient partis pour travailler, se réfugier, mais qui travaillaient en Iran, comme dans les maraîchages, dans les usines. N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait aussi la guerre entre l'Iran et l'Irak, et que beaucoup d'Afghans ont remplacé des Iraniens qui étaient partis, eux, au front. Alors nous arrivons à Zahedan, et puis bien entendu, il y a des Afghans qui vendent des choses sur le bord des trottoirs et tout, et on les reconnaît assez bien, on reconnaît les Afghans, parce qu'ils ont sous leur turban, généralement, un bonnet brodé. Donc ils ne portent pas toujours le turban, mais on peut les identifier à leur bonnet brodé. Et tout à coup, on voit qu'il y a des bonnets ouzbeks. Alors comme nous avions beaucoup travaillé chez les ouzbeks, on leur demande d'où venez-vous. Et de fil en aiguille, il nous donne un village qui était le village où nous avions acheté la yourte, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a dit, mais on a connu tel et tel. Et il nous dit, mais c'est les deux fils de la personne à qui vous avez acheté la yourte, ils sont là-bas, ils vendent des chaussettes devant cette boutique. Et c'est ainsi que 17 ans après avoir acheté la yourte, nous avons retrouvé la famille, parce que le père et la mère étaient venus avec trois de leurs filles pour les marier à des cousins qui étaient réfugiés en Iran. Donc, nous avons pu suivre 17 ans après, au fond, parce qu'ensuite, ils nous ont raconté, bien entendu, tout ce qui leur était arrivé. On a pu suivre ainsi toute l'histoire d'une famille pendant presque une vingtaine d'années. Et c'est des gens qui étaient réfugiés. L'année 1990, c'est aussi l'année où, pour la première fois, les Soviétiques étaient partis il y a une année précédente, avaient quitté l'Afghanistan. Nous avons pu retourner à Kaboul. C'est un Kaboul qui est encore communiste. Les Soviétiques sont partis. C'est Najibullah qui est le président qui préside aux destinées de l'Afghanistan. Et très curieusement, alors qu'on savait que beaucoup de villes ou de lieux en Afghanistan avaient été détruits, on est arrivé dans un Kaboul qui était presque intact. S'il y avait des, je dirais pas des démolitions, c'était parce qu'ils avaient tracé une ou deux routes, nouvelles rues dans la ville, mais c'est surtout parce que la ville n'avait pas été entretenue, donc elle était plutôt dégradée. Alors, en 1992, le régime communiste tombe, les Moudjahidines arrivent à Kaboul, et c'est à ce moment-là que Kaboul est détruite. C'est les Moudjahidines, entre eux, les différents partis, qui se sont battus et qui ont détruit la plus grande partie de la ville, parce que chacun voulait naturellement prendre la tête du gouvernement. C'est les factions, au fond, victorieuses des communistes qui ont détruit la capitale afghane. Déjà en 1994, les talibans commencent à apparaître et prennent la ville de Kandahar au sud de l'Afghanistan. Et nous revenons à Kaboul en 1996 et les talibans sont aux portes de la ville. Nous ne les avons pas vus arriver à Kaboul, mais il faut reconnaître que la population de Kaboul, comme celle de Jalalabad, au fond, attendait et espérait les talibans. Les moudjahidines s'étaient conduits de façon tellement épouvantable à Kaboul et dans les villes du sud de l'Afghanistan que dans un premier temps, les talibans ont été bien accueillis. Alors, après ça, bien entendu, les choses ont changé. Et nous sommes revenus en 1998 par la route depuis le Pakistan jusqu'à Kaboul sous les talibans. Alors c'était un Kaboul vertueux, un Kaboul triste, un Kaboul sûr, en tout cas disons pour nous. Mais c'était aussi un Kaboul où il n'y avait plus d'images, il n'y avait plus de cinéma, vous ne voyez plus de femmes dans la rue, bien entendu. Et c'était sous la férule des talibans, c'était une ville qui avait été, dans une certaine mesure, sécurisée. Et puis, nous n'y sommes pas retournés avant 2002. Après la chute des talibans, Pierre y a fait un premier séjour, et puis on y est retourné, et au fond, à Kaboul, c'était encore une sorte d'état de grâce, si on peut dire. Massoud était devenu un héros, il était mort en 2001. Karzai était un président intérimaire. L'aide pour la reconstruction du pays affluait. Il y avait également une certaine sécurité encore à Kaboul. Et puis, mais c'était devenu déjà une ville cosmopolite avec de très très nombreuses ONG dont on ne savait pas exactement ce qu'elles faisaient et où il n'y avait pas toujours de grande coordination. Et puis en 2005, notre dernier retour, qui n'a fait que renforcer, disons, les images que vous voyez maintenant avec un luxe insolent chez beaucoup d'Afghans enrichis, des cafés internet, une ville qui essaye de devenir cosmopolite mais qui en même temps a de très grandes difficultés.
Voilà, alors pour reprendre le fil du livre, nous avons rédigé une quatrième partie qui est intitulée « Périphérie », c'est-à-dire que c'est le livre qu'on consacre ici, plusieurs chapitres, à nos études chez les réfugiés en dehors de la province du Nord-Est, à Karachi par exemple, ou à Quetta ou en d'autres lieux. Et quand Micheline a parlé de l'Iran, c'est à partir de Quetta en effet que nous sommes allés en Iran. Bon, j'ai pas vraiment de temps de m'étendre là-dessus, mais une de nos enquêtes les plus fascinantes était dans le Waziristan. Waziristan, c'est une province frontière de l'Afghanistan habitée par des gens tribaux très guerriers, les Wazirs, qui est maintenant entièrement aux mains des talibans et d'Al-Qaïda, ou même les fonctionnaires pakistanais n'y vont guère. Et à l'époque, on a pu y faire deux séjours assez intéressants. C'est le séjour d'été des réfugiés afghans, à moins que les réfugiés afghans servent un peu de garde du corps ou d'homme-lige des chefs de tribu wazirs. Nous avons travaillé à Karachi également, donc le grand port du sud du Pakistan, qui était la porte vers l'extérieur. Mais je vais plutôt vous parler en quelques mots de la dernière partie que nous avons intitulée « Revoir Kaboul », justement. Alors Micheline a parlé de nos différents retours. J'aimerais vous dire maintenant quelques mots, disons, non pas de conclusion, mais des idées, des impressions, des prémonitions qui ont petit à petit émergé à la rédaction de notre ouvrage. D'abord, nous sommes demandés si nous étions devenus plus sages après avoir passé de longues années en Afghanistan, réfléchi sur ce qu'était la guerre afghane, sur ce qu'était le phénomène des tribus, ce qu'était la politique afghane. Est-ce que cette sagesse nous permet de prévoir l'avenir ? Alors évidemment, la double réponse est non. Nous ne sommes pas plus sages et nous ne pouvons pas prédire ou prévoir l'avenir de l'Afghanistan. En revanche, l'exil de millions d'Afghans nous a paru clairement comme représentant un creuset pour le futur de l'Afghanistan. Un creuset dans tous les sens du terme. C'est clair que l'exil a été la pépinière des talibans. Ce sont les madrassas de l'exil, soit sur territoire pakistanais, soit territoire afghan, qui ont servi d'école aux talibans et d'où sont partis le mouvement dont on entend tellement parler aujourd'hui. Mais l'exil, ça a été aussi l'occasion pour beaucoup d'Afghans et d'Afghanes d'apprendre un autre monde, d'apprendre que le vaste monde existait justement, d'apprendre pour les Afghans par exemple, un peu d'anglais au Pakistan ou un peu des techniques informatiques. Et ces Afghans de retour en Afghanistan ont pu s'employer à leur tour et apporter quelque chose à leur pays. Mais les Afghanes, réfugiés au Pakistan et surtout en Iran, ont appris qu'il y avait une autre façon d'être femme en pays islamique. Et ça vous apparaîtra peut-être une monstruosité, mais l'extraordinaire autonomie des femmes en Iran, où une femme peut être chef d'entreprise, peut acheter des Boeing d'occasion pour Iranair à l'Inde, et peut avoir toutes sortes d'occupations autonomes, a été aussi une expérience fabuleuse pour des milliers de femmes afghanes. Et actuellement, lors de la formation des nouveaux comités de village en Afghanistan, en relation avec l'aide au développement, les femmes qui ont l'expérience de l'exil représentent un atout extraordinaire. Et ensuite, je vous ai parlé des problèmes de l'identité afghane. Un Afghan, à l'époque où on était à Tashkogan, dans le nord-est, les années 60 ou 70, était avant tout un Afghan de sa tribu, de sa vallée. On était Penchiri, on était Ahmadzai, on était ceci ou cela. L'expérience de l'exil était fondamentale. Les Afghans au Pakistan, en Iran, n'étaient pas considérés comme membres de telle ou telle tribu, ou telle ethnie, ou telle vallée. C'était des Afghans. Donc, dans le miroir que leur tendait le pays d'accueil, les Afghans se sont reconnus comme Afghans, comme faisant partie d'une entité nationale. Donc, au fond, l'exil, elle est la période du conflit, ce qui s'est passé à Kaboul, etc., a abouti à un résultat paradoxal, mais je crois non contradictoire. D'une part, la conscience nationale s'est renforcée, les Afghans sont davantage conscients d'appartenir à une nation afghane en devenir et d'être citoyens afghans, mais d'autre part, la conscience d'appartenir à des grands groupes ethniques qu'on pourrait appeler, comme l'appelaient les soviétiques, les nationalités, d'être pachtoun, ouzbek ou pachaï, etc., a été renforcée. Une autre chose qui nous a beaucoup frappé, Micheline et moi, c'est que cette expérience très traumatisante et très douloureuse pour beaucoup d'Afghans qui a été l'exil faisait suite à la mémoire d'autres exils. Beaucoup d'Afghans se rappelaient avoir été déplacés de façon forcée par les émirs à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle, et qu'autrefois il y avait eu d'autres migrations dues à la politique, aux guerres ou aux famines. Les Hazaras du centre de l'Afghanistan se rappelaient d'avoir fui à la fin du 19e siècle sous les coups de boutoir de l'amir Abdourahman. Donc la conscience afghane était une conscience également d'exil et de migration. Donc la catastrophe qu'ils avaient amené à fuir leur pays faisait suite à d'autres catastrophes. Donc cette expérience multiple nous a amené à remettre en cause le primat de la sédentarité. C'est-à-dire de dire, pour un Afghan, l'expérience transmise par la mémoire ancestrale n'est pas nécessairement l'expérience, l'identité autochtone d'un village qu'on n'a pas quitté depuis 400 ans ou 300 ans, mais une expérience d'une vie aussi errante avec des migrations forcées. Ensuite, et là j'arrive bientôt à la fin de notre exposé, nous avons constamment côtoyé des gens de bonne volonté, non afghans, en Afghanistan et en dehors de l'Afghanistan. Des gens qui faisaient partie d'organisations humanitaires, d'organisations non gouvernementales. Et beaucoup étaient des gens extrêmement dévoués qui ont adouci certainement pas mal de souffrances côté afghan. Mais très peu d'entre eux sont posés la question suivante. Comment est-ce que les Afghans interprètent cette aide ? Un Afghan se pose en fait la question, les Européens, Allemands, Français, Suisses, Américains, voire Japonais, nous aident. Au nom du ciel, pourquoi nous aident-ils ? Les Afghans avaient une réponse assez simple pendant le conflit. Ils disaient, l'Union soviétique est l'adversaire de l'Occident. Nous, nous sommes aussi des adversaires de l'Union soviétique. Donc, il est normal que les ONG, les organisations non gouvernementales, humanitaires, nous aident, puisqu'on fait leur travail, en quelque sorte. Actuellement, la question n'est pas claire. Donc, tout le problème des ONG est le fait qu'ils ne se demandent jamais que pourquoi, aux yeux des Afghans, y a-t-il des ONG en Afghanistan ? Au nom du ciel, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Comment voulez-vous comprendre que des citoyens de Neuchâtel, de Montpellier, du Connecticut, aident des Afghans qu'ils n'ont jamais vus, dont ils n'avaient jamais entendu parler il y a quelques années ? Quelle est la raison profonde ? Et cela crée un climat de malentendus, de suspicion considérable. Donc le fait même de la présence, même généreuse, occidentale, est un problème général qui n'est pas résolu aux yeux des Afghans. Enfin, depuis 2005, nous ne sommes pas retournés en Afghanistan depuis 2005, Micheline et moi, la situation de la sécurité est à tout point de vue, au fond, ne s'est pas améliorée en Afghanistan. Vous le savez aussi bien que nous. La situation est mauvaise. Les talibans sont en somme dans une logique d'infiltration assez réussie. Les troupes étrangères sont considérées de plus en plus comme des troupes d'occupation. Que va-t-il se passer au long terme ? Alors nous n'en savons rien. Mais ce que nous pouvons témoigner, c'est de l'extraordinaire endurance des Afghans, de leur très grande patience, de leur fait qu'ils ont su préserver leurs usages, leur culture, leur vision du monde, malgré toutes sortes de vicissitudes. Et qu'une de leurs armes principales, c'est sans doute le sens de l'humour, c'est-à-dire de voir avec une certaine distance ce qui leur arrive. Donc si à court terme et même au moyen terme, Micheline et moi, nous sommes assez pessimistes sur l'avenir de l'Afghanistan, nous pensons qu'à long terme, quelque chose comme la culture afghane ou les normes et valeurs afghanes sont extrêmement durables et finiront par l'emporter. Je vous remercie.